Voix nue, Georges Steiner par Laure Adler, seconde émission. Hier, Georges Steiner évoquait son enfance et son adolescence en France puis aux États-Unis. Aujourd'hui, il va nous expliquer ce que signifie à ses yeux une grande œuvre, un grand texte et comment ses œuvres peuvent traverser le temps. Georges Steiner.
Un grand texte peut attendre des siècles. Il y a, si vous voulez, quel est le maître de la vérité, c'est Walter Benjamin, c'est Scholem, sont ces hommes-là. Il y a le magnifique essai où Benjamin dit « Ça ne presse pas. Un grand poème peut attendre 500 ans. Sans être lu ni compris, il viendra. C'est pas lui qui est en danger, ce sont les lecteurs. Un grand texte littéraire incarne la possibilité d'un renouveau, d'un questionnement constant, mais il n'est pas là pour être l'objet d'un séminaire universitaire ou d'un papier des constructeurs. C'est renverser les relations naturelles. Shakespeare n'est pas un prétexte pour le petit monsieur Steiner qui passe sa vie à essayer de le lire et de l'expliquer passionnément et d'y revenir tout le temps. Et ce qui est inépuisable, c'est, comme la grande musique, comme l'art, à chaque moment d'une vie personnelle, l'œuvre change en vous-même. Donc ma passion, mon obsession, au point d'emmerder les gens, d'apprendre par cœur. Ce qu'on connaît par cœur, personne ne peut vous l'enlever. Ça reste en vous, et ça croît, et ça se transforme. Il y a la mutation d'un grand texte que vous connaissez par cœur depuis votre classe de lycée, et il change avec vous. Il change avec votre âge, avec vos circonstances. Vous le comprenez autrement. Et me dire que tout ça, c'est un exercice arbitraire, un jeu linguistique, je ne peux pas le croire. Mais j'en vois à la fois le drame terrible du judaïsme et, comme j'ai dit, le génie du surréalisme et de Dada. Il n'y a presque rien dans le post-structuralisme français, dans la déconstruction, qui ne se trouve pas dans une façon ou d'une autre, dans le cabaret Dada, et chez Duchamp, ce génie universel. Et ça, c'était 1915-17, les débuts de cette crise énorme, avec des millions de morts sur les champs de bataille de l'Europe. La raison a craqué d'une façon brillante, si vous voulez. Artaud en est aussi un symbole très, très important. Et il y a des phénomènes qui, un jour, paraîtront, je crois, presque incompréhensible. Un jour, on prendra le Saint Genet de Sartre, on essaiera d'en comprendre un seul mot, et on dira qu'est-ce qu'il a cru faire. Et il y a des œuvres qui, à leur moment en France, ont été très importantes, et on va se poser la question. Que l'influence d'une certaine psychanalyse, elle aussi, produit de la grande crise juive, en Europe centrale, de la crise freudienne, qu'il y ait, chez un homme comme Lacan, chez d'autres, une puissance intellectuelle évidente, un génie intellectuel. Mais est-ce que ça parle à la condition, à la vraie condition très tragique de l'homme en ce moment? Je ne le crois pas.
Georges Steiner, qu'est-ce qui constitue selon vous la temporalité d'une œuvre ou d'un texte, l'universalité et son éternité?
Ce sont des questions très, très difficiles. Il y a très peu de textes éternels, bien sûr. Et après tout, alors n'oublions pas, l'histoire de la lecture est très brève. 2500 ans, mais c'est rien, c'est un clin d'œil. Homère est tout proche de Flaubert. Les pré-homériques, dont il tire son matériau, ont 20 000 ans avant lui. La littérature orale a dominé le monde, et elle commence à le redominer. Il est très possible que la grande période de la lecture, du livre, de l'œuvre dite classique, commence à toucher à sa fin. Deuxièmement, une œuvre, elle devrait résister à la traduction, mais ce n'est pas entièrement vrai. Il est vrai qu'il paraît qu'un Hamlet monté dans un asile de fous en Swahili est magnifiquement fort et convaincant. Shakespeare se traduit dans tout. Les Japonais, les films japonais sur Shakespeare me semblent plus importants que les nôtres et de pénétrer plus profondément. Mais néanmoins, il y a des géants qui ne se traduisent pas. Et où chaque Russe vous dira, les larmes aux yeux, vous ne comprendrez jamais un mot de Pushkin, même dans la plus belle traduction. Il y a certainement des très grands poètes qui se traduisent très mal, et même des prosateurs, quoique ce soit bien sûr plus rare en prose. La grande œuvre est celle qui toujours dit à la fin de la lecture, il faut recommencer. C'est un procès mystérieux. C'est celle qui dit, première tentative, essayons de nouveau. C'est Beckett qui arrive à tout dire. On devient fou d'envie devant Beckett. Quand il dit, il faut faillir mieux, fail better. C'est deux mots en anglais, rater mieux. À chaque reprise, il faut... Prochaine fois, je rate mieux. C'est merveilleux. C'est ce que j'ai toujours dit à mes élèves. Essayons à la prochaine lecture de rater mieux.
Il paraît que quand vous enseignez Shakespeare, vous le chantiez à vos étudiants. Est-ce vrai?
J'ai enseigné Shakespeare, c'est essayer de dire à chaque conférence, c'est du théâtre, mesdames et messieurs, l'idée que dans un grand séminaire d'université, dans une salle de conférence, on enseigne Shakespeare, il en aurait eu horreur. Mais pour moi, ça ne me fait pas... C'est un comédien suprême, c'est un écrivain de script qui aurait été pour la télévision, mais ça l'aurait passionné. Songez ce que Shakespeare aurait fait avec la télévision, avec choix. C'est un homme du théâtre, infiniment du théâtre. Il recommence, il manipule, il y a 5 versions de la même scène, etc. Premier point, artificiellement nous l'enseignons, qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait le jouer à chaque moment. Il faudrait jouer une scène et puis calmement prendre mot à mot les versions possibles. Un grand comédien est le plus grand des critiques et un grand régisseur, Peter Brook, sont ça les maîtres de l'exégèse shakespearienne, pas les professeurs. Et quand on a affaire au drame, comme le film, la problématique de l'éphémère, ça n'aurait pas effrayé Shakespeare du tout. Devant les 25 000 éditions de ses œuvres, il aurait dit quoi? N'est-ce pas? Ça l'aurait, je crois, profondément étonné. Tout change, pas dans la littérature, tout change. Le jour où Beethoven dit « Je suis Beethoven ». Shakespeare n'a jamais dit « Je suis Shakespeare ». C'est peut-être le dernier homme qui ne le savait pas, ô heureux homme. Il ne le savait pas. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai 20 collaborateurs, et ils me doivent de l'argent, je leur dois de l'argent. Est-ce que vous voulez une nouvelle pièce? Ça prendra 4 semaines, la voilà. Beethoven sait qu'il est Beethoven. Et le commencement de la persona créatrice, du titan qui crée à partir de son génie, privé et intérieur, c'est tardif, c'est le romantisme qui nous apporte ça. Et il est devenu très difficile, à mon sens, depuis le romantisme, de comprendre certaines œuvres, de comprendre des très grandes œuvres qui pourraient être anonymes. On n'a pas idée, est-ce qu'Homère a existé ou non? C'est sans aucun intérêt. L'œuvre est là. Et Shakespeare a été très heureux, ému, que quelque chose survive de ses pièces. Pas qu'il soit le génie universel du monde. Déjà avec Mozart, ce n'est pas certain, et c'est passionnant cette question. Qu'est-ce que Mozart pensait de Mozart? On n'en sait rien. Une fois que Beethoven arrive, la persona du génie, du titan, comme on l'appelait, commence à s'imposer. Et on n'a qu'à aller à Paris regarder chaque fois le Balzac de Rodin. Cette statue inouïe est inconcevable avant la découverte moderne de la personnalité de géant, du Prométhée gigantesque. Shakespeare, et d'ailleurs il n'y a pas de bon monument, il n'y a pas une seule bonne statue de Shakespeare, ce qui est très important. Et les deux seuls portraits qu'on dit authentiques, personne n'y croit. Nous ne savons pas de quoi il avait l'air. aucune idée. Et c'est merveilleux. Mais c'est à peu près le dernier moment où l'anonyme d'une grande œuvre est possible. Nous disons que l'œuvre littéraire esthétique est unique. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, c'est probable. On ne peut pas s'imaginer un autre Rimbaud, un autre Mallarmé. Une fois qu'on est dans la modernité, avec toute sa neurose créatrice, avec le cri de Rimbaud, « Je est un autre », on ne peut plus dire, comme dit le scientifique, « Demain, il y aura quelqu'un d'autre qui fera ma découverte, si je la fais pas moi-même ». Et ça, ça pose aussi des problèmes très intéressants pour l'expérience, pour le public. Dans les sciences, il y a une merveilleuse collectivité. Ils ont une chance folle. On peut être un scientifique tout à fait médiocre, et croyez-moi, il y en a. Si on est dans une bonne équipe, l'escalateur monte, le tapis roulant monte. On va avec. On va avec, et lundi prochain, on saura peut-être quelque chose qu'on ne sait pas lundi, ce lundi-ci. C'est la flèche va vers l'avenir. 90% de ce que nous enseignons, c'est le passé. Et si vous me posez la question, y aura-t-il un autre Mozart, un autre Shakespeare, un autre Michel-Ange? D'après les lois de la logique élémentaire, on devrait répondre, mais bien sûr, ça peut arriver demain matin. Mais on n'y croit pas. Et ça me fascine que nous y croyons pas. Et c'est parfaitement absurde de ne pas y croire. Rien ne nous démontre que maintenant, à Pontoise, il n'y ait pas le prochain Racine. Mais on n'y croit pas. Il y a une très grande fatigue dans la sensibilité de l'Occident et cette profonde idée de Valéry, les civilisations sont mortelles. Il le dit en 1919. C'est le moment clé de le dire. Et Dieu sait que depuis, etc.
Georges Steiner, nous évoquions Shakespeare, mais on peut peut-être parler de la tragédie grecque et notamment de vos Antigone. Je suis très impressionnée de voir comment vous convoquez toutes les sciences possibles pour pouvoir nous faire comprendre de l'intérieur, effectivement, une problématique qui nous interpelle encore aujourd'hui.
Vous mettez le doigt, comme souvent l'or, sur le point le plus délicat et névralgique. Pourquoi est-ce que tant de mes collègues universitaires ne m'aiment vraiment pas beaucoup? Pourquoi est-ce que toute ma vie j'ai été un peu en marge? Parce que depuis ma première œuvre, depuis le Tolstoï et Dostoïevski, je dis la distance entre celui qui crée et celui qui commente ou qui interprète sont des années-lumière. J'en suis absolument convaincu. Si je suis ce que je suis, c'est parce que je n'ai pas été créateur. C'est une tristesse très profonde. J'aimerais dire qu'il y a là un côté biographique. Dans la grande tradition judaïque que je dois si souvent invoquer, mon père était convaincu que créer quelque chose, c'est bien, mais c'est très suspect, être professeur. C'est la charge suprême. Et le mot rabbonim, rabbin, veut dire professeur, c'est le mot le plus simple, rien de sacré. Bon. Être un rabbonim. Et j'ai publié quelques volumes de poésie très jeune, et un matin je les relis et je vois que ce sont des vers. Et l'ennemi total de la poésie, c'est le vers. Alors plus jamais. J'ai publié des fictions, tels que mon transport de hache, mais ce sont des fictions d'idées, ce sont des débats, si vous voulez, des dialogues d'idées en forme de fiction ou narration.
Enfin, hache, c'est plus qu'un débat d'idées, c'est voilà. Une problématique sur le pouvoir et sur la méditation du pouvoir suprême et de l'hitlérisme.
Il me manque totalement l'innocence, la bêtise du grand créateur. Était-ce fellow honoraire de mon collège, Henry Moore. Moore venait de temps à autre dîner avec nous. Quand Henry Moore ouvrait la bouche pour parler d'une chose politique actuelle, c'était effarant de naïveté. Alors on regardait ses mains, les mains sur la table, la vie des mains de Henry Moore. Alors on disait, On s'en fout de ce qu'il raconte. Regardez ses mains et de ce qu'il peut faire avec ses mains. Le mystère de l'innocence des grands créateurs est une chose très profonde et que l'outsider, nous le sommes tous, voit mal. Alors, quelle est ma tâche? Toujours, et pardonnez-moi si je l'ai dit avant, toujours j'invoque un film merveilleux, Le Postino, un film sur Neruda et sur le petit monsieur qui porte les lettres de Neruda et qui commence à concevoir ce que c'est que d'être Neruda. Toute ma vie, j'ai essayé d'être un bon facteur, de prendre les lettres et de les mettre dans les bonnes boîtes. Ce n'est pas toujours facile. Trouver les bonnes boîtes pour parler d'une œuvre, pour introduire une nouvelle œuvre, on peut se tromper terriblement. Mais c'est une tâche très, très importante et passionnante, et j'ai une veine folle d'avoir pu être un Postino pour les très grands. Mais jamais confondre les deux. Pouchkine, qui était aussi un aristocrate, on l'oublie parfois, ils sont pas comme nous les princes russes. Pouchkine disait à mes éditeurs, à mes traducteurs, à mes critiques, je dis merci de tout cœur, mais les lettres, c'est moi qui les écris. Mais oui, ça dit tout. Et, si vous voulez, est-ce qu'il y a dans ma vie un regret énorme? Mais oui, c'est celui d'avoir, peut-être j'aurais dû tenter mes chances et d'écrire quelques très mauvais livres. Tenter mes chances, peut-être dans le roman, peut-être dans le théâtre qui a été très important pour moi comme jeune homme. Et je n'ai pas voulu risquer parce que me débordait le privilège de porter les lettres et de les mettre à la boîte. Deux ou trois fois dans ma vie, j'ai eu cette veine inouïe d'ouvrir le chemin à des très grands. Jamais je n'oublierai le très gentil, courtois coup de téléphone du Times littéraire, le supplément le plus important en Angleterre. Vous nous avez envoyé un article sur un monsieur C-E-L-A-N. Est-ce que c'est un nom de plume? C'est qui? C'était le premier article en anglais sur Paul Celan. Là, merci. Là, il y a certains autres cas où j'ai aidé à introduire des écrivains, des poètes très importants, juste au début de leur carrière. Dire lisez ça. Quand je dis qu'il y a certains textes qu'on va découvrir demain ou après-demain, c'est un gageur. Je me trompe peut-être, et je me suis trompé sur certaines choses. Alors il faut être honnête et dire, je me suis trompé, la lettre est allée à une mauvaise adresse. Mais ne jamais confondre. Lors, nous savons rien, il y a des centaines de livres de psychologie illisibles qui ne disent rien sur le coup d'éclair de la création totale. À 6 ans, un petit garçon à Berne. Alors, l'enseignant le prend avec sa classe, 6 ans, pour dessiner un aqueduc. Et le professeur passe derrière les petits gosses et voit que un a mis des chaussures au pilier. Et l'aqueduc marche. C'était Paul Klee, à 6 ans. Et depuis, tous les aqueducs marchent, depuis ce jour. Ou les cyprès de Van Gogh. Il n'y a plus un cyprès qui ne soit pas un flambeau. C'est lui qui a vu que les cyprès étaient des flambeaux. On ne comprend pas du tout. Un film comme le Salieri et Mozart n'était pas du tout ignoble. Il touchait à un problème énorme. Salieri, vous vous souvenez, écrit une très jolie mélodie, mais très jolie. Mozart prend un doigt et la change de 3 accords, et ça devient un des plus grands airs. C'est d'une injustice horrible, horrible, parfois suicidaire, quand on rentre le soir, après avoir essayé de commenter l'acte 3 et 4 de Lear, ou les illuminations de Rimbaud. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se pendre, c'est toujours une solution, ou on peut essayer de rater mieux la prochaine fois, de comprendre encore un peu mieux. Mais au fond, nous comprenons très, très peu. Et un phénomène comme Beckett, qui a pris la langue anglaise et la langue française et l'italien dans sa griffe totale, qui a pu dire en deux ou trois mots ce que des autres dépensent des milliers de paroles creuses à dire. Là, il faut se réjouir. On doit dire merci, merci d'être contemporain. J'étais, si vous voulez, j'ai vécu dans le siècle de Paul Celan, de Heidegger et de Wittgenstein. C'est une chance folle. C'est une chance folle. On pourrait être seulement le contemporain de Sully Prudhomme, premier Nobel. Premier Nobel, n'oublions pas. Ça peut arriver aussi.
Vous dites, Georges Steiner, que vous n'avez pas réussi à être un créateur. Il y a pourtant à l'intérieur de votre œuvre des œuvres de fiction. Et quand vous écrivez des livres de théorie, ce sont des actes de création. Vous avez évoqué tout à l'heure le transport de AH qui mettait en scène donc la problématique de l'ascension d'Hitler. Je voudrais qu'on parle de ce texte assez peu connu dans votre œuvre qui s'appelle Épreuve. Parce que je trouve que c'est un texte charnière pour pouvoir mieux vous comprendre. Je n'en donne que le début. C'est l'histoire d'un correcteur d'épreuves, donc des épreuves, et qui perd progressivement la vue, donc il ne va plus voir les polices de caractère, le monde va s'évanouir devant ses yeux progressivement, mais c'est aussi de la dislocation du monde entier dont il s'agit à l'intérieur de ce texte.
Ce texte a eu des échos seulement en Italie, parce que le modèle est un très grand marxiste italien, Timpanaro, qui a gagné sa vie en corrigeant les épreuves pendant la nuit et qui effectivement a perdu une partie de sa vue et qui a refusé tout compromis avec le monde journalistique et universitaire. Et en Italie, ça a été très débattu et il y a eu beaucoup de pros et contre, pas dans les autres pays. C'est aussi, si vous voulez, ma tentative de comprendre, de m'expliquer moi-même l'énorme force psychologique du marxisme dans la soif de la justice de certains hommes. La défaite du marxisme est aussi une grande défaite humaine. Le marxisme, qui est un messianisme juif, profondément juif, le marxisme qui vient du livre d'Amos et des prophètes, dans les manuscrits dits de 1844 de Marx, on trouve la parole suivante, « Viendra le jour où on n'échangera pas l'argent pour l'argent, mais l'amour pour l'amour et la justice pour la justice. » C'est le grand programme messianique. Nous savons ce qu'est le goulag, on n'a pas besoin de me le dire. Et peut-être était-ce inévitable. Peut-être l'homme est trop rapace, trop privé, trop mesquin pour vivre l'idéal marxiste, qui était un idéal d'altruisme pur. À Cambridge, j'ai la chance d'habiter une très belle maison. Mes enfants l'ont quittée. Ils sont adultes maintenant. Il y aurait des chambres à donner à ceux qui n'arrivent pas à trouver un logis. Je le sais, et je ne fais rien. Et le marxisme m'aurait dit, on s'en fiche de ton choix, ça sera obligatoire. Deux chambres seront mises de côté. Ça résoudrait certains problèmes moraux. Je vous jure, Laure, par certains côtés, ça serait mieux. Pas par d'autres, je le sais, pas par d'autres. Mais la défaite du marxisme, si elle est définitive. Je passe ce matin, avant de vous voir, à la librairie de la Compagnie et à cette merveilleuse librairie Vrin, et je vois toutes sortes d'œuvres sur le marxisme. Pas seulement Althusser, qui tout d'un coup revient. Il y a un essai de moi, il y a 45-50 ans, qui dit deux choses. Acheter les premières éditions du Capital et acheter les premières éditions de la marque. Je m'explique tout de suite. C'est l'année Darwin. À Cambridge, nuit et jour, on mange du Darwin. Bien. Et des petites voix très discrètes, très courageuses, qui viennent de dire « Attention, est-ce que la marque qui a dit qu'on peut hériter de traits spécifiques, vous le savez, qui a un héritage, avait totalement tort ?» Ça me réjouit l'âme. Freud était lamarckien jusqu'au dernier jour de sa vie. Et dans une très grande note liminaire à Totem et Tabou, il a dit « Je n'arrive pas à croire qu'il n'y a pas un héritage de traits spécifiques qui est en dehors de la génétique comme classique. » Un de ces jours, on pourrait avoir des chocs très intéressants en ce qui concerne le darwinisme, pour l'instant tout puissant. Il faut toujours essayer de se dire quel est le prix pour un grand progrès. Quelles sont les victimes d'un grand progrès? Dans le cas du marxisme, a été écrasé un immense espoir qui a été vécu dans les kibboutzim en Israël, qui a été vécu dans certaines communautés collectives socialistes. Et quand on lit en ce moment « c'est la fin du capitalisme sauvage, c'est la fin du grand luxe, c'est la fin de la... » Vous savez que ça fait maintenant 20 ans, 30 ans, et ça continue, qu'on met à la porte 10 000 personnes et qu'on a un plus que valeur, un bonus de 5 millions, après avoir ruiné l'industrie ou la banque qu'on gérait. Est-ce que vraiment c'est ça l'idéal de la liberté humaine? Je me demande. Alors j'ai essayé dans ce petit roman de montrer ce qui se passe pour un homme qui devient aveugle en gardant son espoir marxiste. Et je termine par la citation que je prends à Balzac. Cet homme qui est un athée total et résolu, seul maintenant dans la ville, dit « Adieu, à nous deux maintenant ». C'est la dernière grande lutte qui va se préparer. Celle entre l'athée indépendant, l'athée qui est rationnel et la croyance religieuse.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre enregistrée en 2008 entre Laure Adler et Georges Steiner, récemment disparu. À voix nue, réalisation Nathalie Salle, attachée de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.